Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 4 juin, gare aux orages particulièrement violents avec parfois de la grêle et des rafales jusqu'à 100 km/h. Nous irons dans un instant en Seine-et-Marne à Thieux, où le village a essuyé 3 torrents de boue en quelques heures. Bonjour Céline Dacosta.
Oui, bonjour Christelle, bonjour à tous.
Effectivement, il y a une diagonale orageuse qui va du Massif central au nord-est.
Oui, des orages qui seront fréquents, localement forts, avec des averses de grêle possibles, de fortes rafales de vent. Ce sont des orages assez localisés qui se déplacent rapidement. Donc même si les cumuls de pluie pourront être importants, ça ne va pas durer longtemps. On attend les orages les plus violents sur le nord du pays. C'est pour cette raison que les départements du nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne sont actuellement en vigilance orange. Une vigilance qui devrait rester en place jusqu'à ce soir, à un début d'épisode en milieu d'après-midi. De part et d'autre, de cet axe orageux, c'est plus calme, avec le soleil qui revient même déjà sur la Bretagne et la Normandie, et des températures qui baissent un petit peu après le passage de ces orages.
Un nouveau féminicide à Colmar. Un homme a tué sa compagne après l'avoir poussée par la fenêtre du 8e étage d'un immeuble. L'enquête sur Patrick Poivre d'Arvor est désormais terminée. Information RTL, 23 femmes ont fait des signalements pour harcèlement, agression sexuelle ou viol. Un code couleur pour les touristes désireux de venir en France. Vert pour les Européens, orange pour les Britanniques, rouge pour les Brésiliens. Les Européens vaccinés pourront entrer sans test PCR. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à Marseille, retrouver une sardine de 32 mètres. Je vous le jure, sans exagération. La question du jour sur RTL.fr concerne le tournoi de Roland-Garros. Êtes-vous surpris par la débâcle des joueurs de tennis français puisqu'il n'y en a plus aucun? Il y a 92% de non, 3% de oui seulement. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal.
C'est une bonne question. À 13h, nous serons avec Philippe Bouvard. Figurez-vous, il sera l'invité des auditeurs. On a la parole à l'occasion des 100 ans de la radio. Il nous racontera de nombreux souvenirs, sans doute. Vous pourrez échanger avec lui en 1965 sur l'antenne de Radio Luxembourg. Il tenait une chronique qui s'appelait « Chronique parisienne ». Vous pourrez également parler de cette société de plus en plus violente, selon Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez cet avis? Et puis, une nouvelle polémique autour du chanteur Youssoupha. Après la chanson écrite « Mon nom en bleu », il a tenu des propos hier au magazine Quotidien qui font réagir sur le Rassemblement national. Il a dit « Ces gens-là sont racistes, homophobes, dansent avec des nazis. Ces gens-là ne sont pas importants. » Vous nous direz ce que vous en pensez. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est tombé l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie en quelques heures en région parisienne ce matin. Des orages particulièrement violents qui remontent du sud-ouest et certains ont eu 3 fois les pieds dans l'eau en quelques heures. Valentin Boisset, vous êtes à Thieux en Seine-et-Marne, un village de 800 habitants où il y a eu une nouvelle coulée de boue ce matin.
Oui, troisième coulée de boue ce matin avec peu de moyens pour lutter. Tout le premier étage de Baïa, par exemple, est inondé. Elle a perdu la cuisine et le salon.
J'ai une petite raclette là, parce que l'eau, elle rentre par le sol. Et tout ça, c'est juste pour éviter d'avoir un mètre d'eau. Il y a de l'eau jusqu'au bout là-bas.
Devant chez elle, le bitume a cédé hier soir par endroits. Face à la pression de l'eau, Mohamed tient le seul commerce de la commune, une épicerie.
On a tout perdu pendant maintenant 15 jours, je sais pas. Il faut te renettoyer, te refaire les stocks, les machines, il faut...
Ça s'est passé très vite, hein, c'est ça.
Comme si on était dans un aquarium, on voyait l'eau passer devant nous à la hauteur d'une personne. Donc on est obligé de nager pour sortir.
Ce matin, les habitants ont bien essayé de se battre avec des sacs de sel devant les portes. Il y a eu moins de dégâts qu'hier soir, mais le maire Fabrice Kuiper s'appelle à l'aide.
On sait plus qui appeler.
Le bilan, en gros, c'est quoi? C'est plusieurs dizaines de maisons?
C'est une centaine de maisons, un peu plus de 100 maisons, un tiers du village. Nous, on n'a plus de service technique, plus de mairie, un truc invraisemblable. On n'a jamais vu ça.
Ce midi, tous les regards se tournent vers le ciel car il s'assombrit à nouveau au-dessus de moi. Des précipitations sont attendues dans l'après-midi.
Reportage Valentin Boisset. Les orages se déplacent vers les Hauts-de-France, placés désormais aussi en vigilance orange. Après Hayange, Douai et cette horrible tentative de féminicide hier à Metz, c'est à Colmar qu'un nouveau drame s'est joué. Un homme a tué son ex-compagne en la poussant par la fenêtre du 8e étage d'un immeuble à 19 mètres de haut. Yannick Collant, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, les voisins ont d'abord entendu les bruits d'une dispute au 8e étage de cette tour avant d'assister à l'horreur. Doris, 48 ans, est jetée par la fenêtre par son compagnon alcoolisé. Elle s'écrase sur le toit de la salle des sports d'à côté. Ce voisin monte alors pour lui porter secours alors que l'agresseur continue de jeter des bières.
Pendant que j'étais en train de voir la dame inanimée, il y a 2 grosses canettes de bière qui ont explosé à côté d'elle. Et j'ai dit à la police qu'il faut aller d'urgence au 8e parce qu'il est là-haut. Il doit être complètement imbibé.
L'homme a 2,5 g d'alcool dans le sang. Il a déjà été condamné pour violence. En 2019, il n'avait plus le droit d'approcher la victime, mais Doris n'arrivait pas à se sortir de cette relation toxique, comme l'explique Stéphane, son ex-mari.
C'était quelqu'un de violent. Il lui avait déjà fait beaucoup de mal. La justice avait déjà tranché là-dessus, mais bon, ça n'a pas suffi.
Il n'avait pas le droit de la voir.
Il y avait une mesure d'éloignement, oui. Bon, après, elle acceptait qu'il vienne aussi, donc voilà. Enfin bon, moi, je comprends pas pourquoi une personne comme ça, avec ses antécédents, est encore en liberté.
L'homme a été immédiatement placé en garde à vue. Il n'a pas pu être entendu dans l'immédiat du fait de son alcoolisation.
Yannick Collant à Colmar, le collectif Féminicide par Compagnon ou Ex a déjà recensé 48 victimes depuis le début de l'année. L'enquête de police est close concernant Patrick Poivre d'Arvor. Elle a été transmise à la justice et au total, d'après vos informations RTL, Guillaume Chiez, il y a 23 femmes qui ont évoqué des faits de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol, mais peu ont porté plainte.
Oui, car pour la plupart d'entre elles, les faits seraient aujourd'hui prescrits. Les enquêteurs de la PJ parisienne ont couvert une vaste période entre 1993 et 2016. Pendant plus de 3 mois, ils ont entendu de nombreuses femmes, mais aussi des collaborateurs de l'ancien présentateur du 20h. Et c'est au cours de ces auditions qu'ils ont recensé ces 23 victimes potentielles. Certaines évoquent des faits de harcèlement, d'autres d'agression sexuelle et même de viol. Patrick Poivre d'Arvor, lui, a été entendu à 2 reprises en audition libre le mois dernier. Concernant ces 23 femmes, il reconnaît avoir eu certains rapports consentis, mais ni les autres, ou dit ne pas s'en souvenir. Désormais, le parquet de Nanterre doit décider des suites judiciaires à donner à ce dossier. Les magistrats vont reprendre toutes les déclarations et déterminer si les faits dénoncés tombent ou non sous le coup de la prescription.
Guillaume Chiez, on ne connaît toujours pas l'origine de la panne géante et inédite chez Orange sur les numéros d'urgence. Une enquête interne vient d'être lancée. Tout est rentré dans l'ordre, affirmé ce matin Jean Castex, le Premier ministre, après une nouvelle réunion de crise et il a fait le bilan.
Nous déplorons des cas, des victimes qui sont susceptibles d'avoir été causées par ce grave incident. Et je voudrais tout de suite dire, il y en a 4 résumés, sous réserve évidemment de ce que diront les enquêtes, notamment les enquêtes judiciaires qui sont ouvertes. Et je voudrais tout de suite dire ma vive compassion aux familles pour ce qui s'est passé. Et il faudra établir très clairement la cause des faits qui se sont produits. L'État, pour ce qui le concerne, a ordonné une inspection dont les résultats seront rendus en toute transparence dès qu'ils seront connus et dont nous tirerons évidemment tous les enseignements.
Jean Castex au micro RTL de Vincent Derosier. Une pause et dans un instant, on essaie de comprendre pourquoi le tennis français est en pleine débâcle.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
On a l'habitude de dire qu'il n'y a plus de joueurs français à Roland-Garros en deuxième semaine, mais au bout de 4 jours seulement, c'est tout simplement du jamais vu depuis 1968. D'où la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr. Êtes-vous surpris par la débâcle des Français ? Pascal Praud, je crois que je connais un peu votre réponse.
Non mais c'est terrible, écoutez, depuis 1983, il y a eu à peu près 150 tournois du Grand Chelem. 150, il s'est passé 37 ans, il y en a 4 par an. Bon, on n'a pas un champion français, on n'a pas un joueur français masculin qui a gagné un seul tournoi du Grand Chelem en 37 ans. C'est quand même invraisemblable. Les Espagnols, les Allemands, les Américains, etc. ont gagné. Bon, donc c'est une faillite manifestement mentale. Visiblement, on a des joueurs qui ne sont pas formatés pour ça. Je ne connais pas la raison. On me dit que les joueurs, ils sont très contents d'être 15e ou 20e en France, mais ils ne veulent pas être premiers ou ça demanderait trop d'efforts ou que sais-je. Bon, c'est quand même une faillite de la formation. Qu'on le veuille ou non, c'est que manifestement, on n'arrive pas à inculquer cet esprit de champion à nos jeunes joueurs. Mmh. C'est sans doute un échec également de la détection, parce qu'on ne sait pas voir qui pourrait, ou au contraire, on prend des gens qui peut-être ne sont pas armés. C'est sans doute une faillite aussi de la préparation. Donc, le football a réussi à recruter dans des zones peut-être différentes d'ailleurs, sociales, avec des joueurs qui ont faim. Eh bien, ça serait bien qu'on ait des tennismans qui ont faim.
Et nous sommes avec Patrice Agelower, ancien entraîneur de Yannick Noah et ancien DTN, ancien directeur technique national. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Alors, ils n'ont pas faim, nos tennismans français ?
Si, ils ont faim, si, ils ont faim. Vous savez, c'est très, très difficile de faire des analyses comme ça quand on n'est pas proche des joueurs pour savoir exactement ce qui se passe. Mm. Et chaque cas est un cas particulier. Mais dire que les joueurs n'ont rien gagné, vous savez, ça aussi c'est vite dit, hein, parce que ils ont gagné des matchs, ils ont gagné un nombre de tournois incroyables. Ils ont fait
ils n'ont pas gagné un tournoi du Grand Chelem, Patrice, en 37 ans.
C'est
du jamais vu. Enfin, les Espagnols, je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure. Même dans ce que vous dites, déjà, vous semblez dire au fond, il n'y a pas de problème.
Écoutez, si vous ne me laissez pas parler, évidemment, je ne peux rien expliquer.
Je vais reprendre la main. Allez-y, Patrice.
J'essaie de vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand vous jouez depuis 15 ans et qu'à Roland-Garros, vous avez un monstre qui s'appelle Nadal, eh bien, c'est difficile de gagner le tournoi. Et c'est pas que les Français. C'est difficile. Alors, vous jouez, c'est comme quand vous courez le 100 mètres derrière Bolt, là. Hein. Quand les athlètes courent le 100 mètres derrière Bolt, on peut dire, mais il n'y a pas de coureur derrière Bolt. Vous savez, le tennis, c'est quelque chose de particulier. Vous avez 2500 joueurs qui jouent chaque semaine. Et là-dedans, il faut vraiment être bon quand on arrive déjà dans les 10 premiers, quand on est comme Gilles Simon 6e, comme Tsonga 5e, qui gagne des Coupes Davis, qui gagne des médailles olympiques. Il ne faut pas oublier ça.
Ceux-là, mais Patrice, il y a Henri Lecomte qui n'avait pas de mots assez durs ce matin sur RTL. Il expliquait que les Français ne travaillaient pas assez le mental. Est-ce que tout ne se joue pas au niveau du mental, au fond?
Bien sûr que le mental, ça fait partie.
Mais alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire?
Mais attendez. Vous savez, on dit quelque chose qui est très important, vous allez bien comprendre. Vraiment, un joueur, pour vraiment devenir un champion, il y a trois choses. Un, il y a l'aspect, si vous voulez, qui correspond à ce qu'on dit, on joue avec son corps, on gagne avec sa tête et son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps, c'est tous les aspects techniques, physiques. La tête, c'est tout ce qui concerne le mental. Ça, c'est essentiel, évidemment. C'est tout ce qui concerne la concentration, la lucidité, tout ça. Et surtout, quand on dit qu'on joue avec son cœur, qu'on gagne avec son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maîtrise ses émotions. Et ça, c'est là que c'est important. Les émotions et les sentiments. Il y a beaucoup de joueurs qui ont une perte de confiance en eux, qui se sentent des fois, qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent vraiment des fois... déçu ou pas capable de réussir parce qu'on leur met ça dans la tête.
Oui, mais on l'a vu avec Osaka qui avait des petits problèmes aussi. Juste une dernière chose, il y a peut-être un problème aussi de recrutement et ce sera ma dernière question.
Bien sûr qu'il y a des problèmes. Attendez, là, aujourd'hui, il faut bien analyser, mais chaque cas, il faut analyser chaque cas, il ne faut pas faire une globalité. Moi, je suis aussi déçu que vous, extrêmement déçu, vous pensez, moi j'ai du recul par rapport à tout ça. Ça fait 40 ans que je suis des tournois et j'en ai vu des joueurs, j'en ai vu des champions. Mais là, il y a effectivement quelque chose qui se passe parce qu'il y a eu un trou générationnel derrière ces quatre joueurs qui sont maintenant vieillissants, qui ont plein de bobos, bien sûr, et qui ont du mal à revenir en forme, et j'espère, et je ne suis pas sûr qu'ils reviennent. Même quelqu'un qui pouvait assurer la transition comme Lucas Pouille et quelqu'un qui a été blessé très sérieusement au coude et qui ne peut pas servir normalement. Ça, on ne parle pas des problèmes parce qu'ils n'aiment pas évoquer leurs problèmes. Mais il faut étudier chaque cas et se poser les bonnes questions. Il y a du travail à faire, il y a du taf, c'est vrai.
On vous rappellera, on en reparlera, Patrice, mais je note bien que vous avez dit qu'il y avait bien un trou générationnel et un problème de mental avec les Français. Merci, à très bientôt. Sachez qu'une joueuse de tennis russe a été arrêtée ce matin à Paris dans une enquête sur des soupçons de paris truqués. Il s'agit de Yana Sisikova, 101e mondiale, pour un match en double lors de l'édition 2020 de Roland-Garros. Dans un instant, la vaccination, les Français y sont de plus en plus favorable.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
La vaccination avance vite. Plus de la moitié des adultes ont reçu au moins une dose dans notre pays. Et plus le temps passe, plus les Français veulent se protéger. D'après la dernière enquête de Santé publique France, le taux d'adhésion au vaccin atteint désormais 76% contre 69% il y a un mois, Sophie Orange.
Et sans surprise, les convaincus sont les plus de 65 ans. 93% sont déjà vaccinés ou ont l'intention de le faire. La progression la plus importante concerne les 25-34 ans, plus 15 points en un mois. 50% étaient favorables en avril, ils sont désormais 65%. La progression est plus modeste dans les autres tranches d'âge, plus 5 points, mais la hausse est nette, franche et continue depuis le début de l'année. Et très clairement, elle s'accélère maintenant que la vaccination est ouverte à tous. Autant les plus âgés voulaient se faire vacciner pour éviter les formes graves, éviter l'hôpital, autant les plus jeunes cherchent à retrouver une vie normale avec un pass sanitaire qui leur permet de voyager, aller à des concerts ou des gros événements sportifs. Les 24% qui restent opposés à la vaccination s'inquiètent du côté pas sûrs de ces nouveaux vaccins. Ils préfèrent d'autres moyens de prévention. On le rappelle, les effets secondaires sont suivis et tout à fait conformes à ceux attendus et ne suscitent pas d'inquiétude particulière. Deux derniers enseignements de cette étude de Santé publique France. Plus la situation financière est bonne, plus l'adhésion de la personne à la vaccination est élevée. Et puis pour la première fois, les parents d'enfants de moins de 17 ans ont été interrogés. Pour le moment, seuls 47% sont prêts à faire vacciner leurs enfants. On va voir si ce chiffre évolue.
En tout cas, la vaccination va changer la donne aussi pour le tourisme. La France rouvre ses frontières, mais il y aura un distinguo entre les Européens et les autres dès le 9 juin. Ainsi, Bénédicte Tassard, les citoyens vaccinés des 26 autres pays de l'Union pourront venir visiter la France sans passer par la case test.
Et oui, en revanche, il faudra toujours un test pour ceux qui arrivent des États-Unis ou de Grande-Bretagne. Vaccin ou pas, ces deux pays sont classés orange. Donc les Américains ou les Britanniques non vaccinés doivent en plus justifier d'une raison impérieuse pour venir nous voir. C'est pareil pour les Africains et les restrictions sont pires encore pour les visiteurs d'Amérique du Sud.
Bon, et les Français vaccinés pourront-ils eux aussi franchir facilement les frontières ?
On sent votre impatience. Ça devient bon.
C'est clair.
C'est déjà le cas pour la Grèce, ouverte aux personnes vaccinées. Ben voilà. Pour partir visiter Madrid ou Séville, si vous êtes vacciné, plus besoin de test à partir de lundi. Pour l'Italie, en revanche, le test PCR réalisé 48 heures avant votre voyage est toujours réclamé. On déconseille encore le Royaume-Uni qui impose la quarantaine. Maintenant, pour vous rendre en Afrique, en Asie ou en Amérique, vous vous connectez sur le site diplomatie.gouv.fr. Vous trouverez la liste des pays verts, orange ou rouge. Et je vous préviens déjà, très peu sont aujourd'hui en vert. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Israël, le Japon, Singapour, le Liban et Israël, c'est tout. Et chaque pays a ses règles d'entrée sur son territoire.
Voilà, nous voilà prévenus. Merci Bénédicte. Pour aider les petits commerces avant les soldes, les départements avaient la possibilité d'obtenir des dérogations pour des ouvertures le dimanche. Une soixantaine de départements l'ont fait, comme Paris, la Côte d'Or ou l'Isère, d'après Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui rappelle que cela doit se faire sur la base du volontariat et avec des compensations. Attention, si vous bénéficiez d'heures de formation professionnelle non utilisées, vous avez jusqu'au 30 juin pour les transférer vers votre compte personnel de formation. Sinon, eh bien, vous risquez de les perdre. Avis aux retardataires, mais que faut-il faire, Anaïs Bouissou ?
Déjà, savoir si vous êtes concerné ou pas. Sont concernés tous ceux qui étaient salariés avant le 31 décembre 2014. Ça veut dire qu'ils ont accumulé des droits à la formation. En général, c'est jusqu'à 120 heures, c'est-à-dire 1800 euros quand même de droits qui risquent d'être perdus si vous ne faites rien. Plusieurs millions de personnes sont concernées. Concrètement, pour les angoissés de la paperasse, déjà, vous respirez, vous vous connectez au site « Mon compte formation ». Soit vous créez un compte avec votre carte vitale, soit, si le compte est déjà créé, vous entrez vos identifiants. Vous avez un onglet qui est visible, « Saisir mon droit individuel à la formation, DIF ». Vous aurez un justificatif à fournir, ça c'est la partie un peu pénible. Il s'agit soit de votre bulletin de salaire de décembre 2014, soit janvier 2015, soit une attestation d'employeur. Tout ça, c'est écrit sur le site Mon Compte Formation. Au pire du pire, si vous n'avez rien et que c'est l'angoisse totale, vous avez un onglet pour contacter un conseiller.
Merci Anaïs Bouissou.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Marseille, où la sardine du Vieux-Port n'est pas une légende. On la doit à un graffeur sardo-marcillot, vous imaginez ce que ça veut dire en provençal, qui vient de la représenter sur le toit d'un immeuble au pied de la Bonne Mère, en format XXL, Étienne Baudu.
Ah oui, très grand même, on va le voir. Alors j'ai découvert Sardo à partir de stickers de petits autocollants qu'il a essaimé un peu partout dans la ville. Sardo a créé un personnage, la sardine de Marseille. Son corps est constitué du mot Marseille, la queue et la tête sont bleus, un grand œil pétillant et la lèvre écarlate. Et cette fois-ci, ce n'est pas sur un sticker qu'on la retrouve, mais sur le vaste toit-terrasse d'une copropriété privée au pied de la Bonne Mère, un immense graphe de 32 mètres sur 14. C'est Isabelle, une habitante de la copro, qui en a eu l'idée.
La sardine de Sardo, c'est parce qu'elle est sympa, elle est rieuse, elle n'a aucune connotation, et elle parle à tout le monde, c'est Marseille, c'est la sardine qui a bouché le port. On l'a récupérée.
Et évidemment, Sardo, lui, a dit banco.
Ce spot, il est incroyable, il est au pied de la Bonne Mère, à côté d'un stade de foot, pas loin du Vieux-Port. Elle semble remonter du reste de ce Vieux-Port, donc oui, le lieu, il est juste incroyable.
Et comme on est à Marseille, la sardine de Sardo, 32 mètres par 14, je vous le rappelle, est évidemment la plus grande du monde, voire...
Je challenge Thomas Pesquet, s'il survole Marseille, peut-être que s'il l'aperçoit, il pourra nous faire un petit clin d'œil ou nous confirmer que c'est bien la plus grande du monde, voire même de l'univers.
Elle est surtout visible depuis l'esplanade de la Bonne Mère, qui veille sur elle, sans doute, le plus beau panorama de la ville, qui a désormais sa sardine.
Sardine visible du ciel, merci Étienne Baudu. Enfin, une grossesse qui vaut de l'or. Les titres de deux chaînes de restaurants ont grimpé en flèche hier à la bourse de Tokyo, car ils comptent certains établissements, des établissements proches du zoo d'Ueno. Or, la femelle panda Shin Shin vient de s'accoupler avec le mâle Riri, et les investisseurs ont très sérieusement anticipé une possible grossesse. Voilà, ça suscite plus d'enthousiasme là-bas que les Jeux Olympiques. La météo, Céline Dacosta, au moment où on se parle, où en sont les orages?
Eh bien, en ce moment, on en a sur le sud de l'Aquitaine et les Pyrénées. Alors, ils se déplacent sur un axe Pyrénées, Massif central, frontière belge et allemande. Les orages les plus violents étant prévus sur l'est des Hauts-de-France, avec, je vous le rappelle, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, qui sont placés en vigilance orange par Météo France. On y attend à partir du milieu d'après-midi de fortes cellules orageuses avec de la grêle, des cumuls de pluies importants, de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 km à l'heure. Alors prudent sur ce secteur. Les orages pourraient être brefs parce qu'ils se déplacent rapidement, mais intense, ça, on l'a compris. Plus à l'ouest, sur la Bretagne, la Normandie, le soleil revient déjà, mais avec une baisse des températures. 15 degrés à Caen ou 18 à Brest seulement, ça reste chaud. En revanche, à l'est, où le soleil est présent avec 28 degrés à Strasbourg, 29 à Marseille et 30 à Lyon.
Et ce sera plus calme pour ce week-end?
Oui, l'amélioration continue. Le soleil sera largement présent demain après-midi sur une grande moitié ouest et sur le sud du pays. Les orages seront toujours présents, mais sur le nord-est uniquement, entre la Bourgogne et le Grand Est, avec des averses soutenues surtout le matin, puis prudence cette nuit sur la Bourgogne et la région centre. C'est là que les orages pourront être le plus violents, avec de forts cumuls de pluie attendus.
Nous voilà prévenus, merci Céline. Pascal Pro, vous ne vous êtes pas fait rincer comme moi ce matin?
Non, parce que je me suis levé beaucoup plus tôt que vous.
Ah, ouais, écoutez, j'étais par là vers 7h15, j'en ai pris une bonne, je peux vous dire.
Et un petit peu avant, visiblement, il ne pleuvait pas, donc j'ai eu de la chance. On va être avec Philippe Bouvard, parce que c'est les 100 ans de la radio, évidemment. Philippe Bouvard, c'est une des grandes voix d'RTL. Beaucoup
il a mille anecdotes à vous raconter.
Mais oui, et puis c'est quand même une légende, une figure mythique de nos métiers, donc ça va être intéressant de l'interroger. Et surtout, les auditeurs vont pouvoir échanger avec lui. On parlera évidemment de Roland Garros. Je n'ai pas été convaincu par M. Hagelauer, que j'aime beaucoup au demeurant. Mais il dit Nadal, d'ailleurs, c'est intéressant, mais on pourrait être en finale. Bon, on n'a jamais non plus été en finale de Roland-Garros. Donc, il n'y a pas que Nadal, manifestement. Donc, le tennis français en difficulté, bien sûr. Notre société est-elle de plus en plus violente? Voici les grands sujets du jour.
À suivre le rappel des titres, Yvette, 13h.
RTL. Il est pile 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Quel plaisir, quelle joie, quel honneur aussi. Nous serons avec Philippe Bouvard dans une seconde et les auditeurs vont pouvoir échanger avec lui comme François. Bonjour François.
Bonjour Pascal.
Philippe Bouvard fait partie de votre vie?
Ah oui, Philippe Bouvard, c'est l'homme orchestre du monde médiatique. Donc on a plaisir de le voir.
Eh bien écoutez, il sera sans doute ravi de ce compliment. Christelle, le rappel des titres.
Oui, tout est rentré dans l'ordre, c'est ce qu'affirme Jean Castex après la gigantesque panne des numéros d'urgence chez Orange. Mais au moins 4 victimes sont recensées dans tout le pays. Orange lance une enquête interne pour déterminer les causes de cette panne. 76% des Français adhèrent à la vaccination d'après Santé publique France, un chiffre qui ne cesse de progresser. Plus d'un adulte sur deux a reçu au moins une dose de vaccin. Côté tourisme, les Européens vaccinés pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de test PCR négatif. Nos informations RTL à propos de l'enquête sur Patrick Poivre d'Arvor. 23 femmes ont fait des signalements pour harcèlement, agression sexuelle ou viol. Et puis nous partons à Roland-Garros comme chaque jour, retrouver Isabelle Langer. Bonjour Isabelle.
Bonjour Christelle.
Au programme aujourd'hui, Zverev, Tsitsipas et Serena Williams.
Oui, Serena Williams, ce sera dans l'après-midi contre l'américaine Collins et Stefanos Tsitsipas, ce sera le match du soir.
et ça va être sympa, oui. À partir de 21h contre l'américain Isner. Une petite information, vous savez que mardi, malgré le couvre-feu à 21h, 5000 spectateurs assisteront à France-Bulgarie de foot au Stade de France. Oui. La Fédération française de foot a obtenu une dérogation, une journée en avance de la deuxième étape du déconfinement. Du coup, Roland Garros a demandé le même privilège, mais eh bien, c'est notre petite information du jour et ils ont reçu une fin de non-recevoir, les organisateurs de Roland Garros.
Vous voulez dire qu'il y a des privilégiés.
C'est ça.
Allez, à tout à l'heure, Isabelle.
Les auditeurs ont...